Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Donc nous sommes arrêtés au chapitre 9. Au chapitre 9, au verset 13. Voilà. Nous allons continuer donc Ecclésiaste 9, 13.
J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées.
Voilà. Donc là, on nous expose encore les réflexions profondes sur la sagesse. Et il y a un trait qu'on veut soulever ici, c'est le fait que la sagesse, quand elle est faite, elle est manifestée dans la tranquillité et la douceur, ça ne rapporte pas le suffrage du peuple. Le peuple aime à se souvenir des exploits retentissants. Voilà. Donc, quand il y a une grosse manifestation de puissance, de popularité, même de sagesse, mais avec un éclat retentissant, là, les gens se souviennent. Mais les petits conseils donnés en aparté, qui après produisent beaucoup de fruits, des règlements de conflits accomplis en secret, ben, ce sont des choses dont les gens ne se souviennent plus. Le sage doit s'habituer à l'ingratitude humaine s'il veut rester sage. C'est ça le conseil qu'on peut retirer de cette partie. C'est que la sagesse n'apporte pas forcément du succès. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel quand ça a été retentissant, quand il y a eu publicité de l'acte de sagesse. Mais la sagesse que le pauvre manifeste tous les jours, le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas pignon sur rue, qui n'a pas de visibilité, de grande visibilité, et dont les conseils qu'il donne dans des groupes de deux ou trois, des conseils qu'il donne dans des positions de non-popularité, ben ces conseils-là, quoi qu'ils soient très importants, c'est ce qu'il dit au verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force, parce qu'avec la sagesse de cet homme-là, la ville a été libérée. Donc, la sagesse est plus forte que la force, mais elle ne remporte pas toujours le succès qui lui est dû. Pourquoi ? Parce que les hommes aiment des choses retentissantes, puissantes, qui font du bruit. Et la sagesse vient souvent dans le calme. Et les humains oublient très 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 vite le travail lié à la sagesse, lié au courage, mais qui vient dans la simplicité. Voilà, les humains oublient ça. Vous savez, il y a des gens comme Churchill, les gens qui connaissent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale connaissent l'importance de Churchill dans cette affaire, dans la victoire sur l'Allemagne et sur les autres pays comme le Japon, l'Italie. Donc c'est Churchill qui est vraiment l'organisateur de la victoire du monde libre contre ce monde dictatorial qui a voulu s'imposer. Mais les gens ne s'en souviennent que très peu. D'ailleurs, vous savez que après la guerre mondiale, il a perdu les élections. C'est vraiment quand j'ai appris ça, je voulais tomber à la renverse. Donc, quand, puisque moi j'ai suivi beaucoup de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu le rôle de ce monsieur. Et quand j'ai appris que après cette guerre, il a perdu les élections, j'ai dit, mais les humains sont mauvais, ingrats et fous. Et fous. Certainement, les organes de presse ont plébiscité quelqu'un d'autre. Il y a eu du bruit sur quelqu'un d'autre. Et comme tout ce que nous faisons dans la sagesse ne fait pas forcément du bruit, les gens oublient. Ils préfèrent ce qui est brillant, ce qui paraît puissant, ce qui vient avec éclat. Du coup, les gens sages se retrouvent parfois attristés, oubliés, négligés, parce que à cause de la mémoire ingrate des humains, à cause de l'attachement des humains à tout ce qui est, tout ce qui brille, tout ce qui fait de grands exploits retentissants. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont sages doivent s'exercer à l'humilité. Parce que sinon, ils seront vite déviés de la sagesse, parce qu'ils auront l'impression que ça ne rapporte pas. Mais ce n'est pas à cause de l'ingratitude des humains que toi, tu dois arrêter d'être sage. Tu dois demeurer sage, parce que c'est ainsi que tu es heureux, c'est ainsi que tu es proche de Dieu. Tu dois demeurer paisible, confiant en l'Éternel, sachant comment répondre à chacun, acceptant la négligence des humains, l'oubli, parce que les sages contribuent à beaucoup de choses, mais ce n'est pas fait à la télé. Souvent, ils vont dans les familles, ils règlent les problèmes, ils discutent avec les gens, ils calment les conflits. Mais dès que le conflit s'arrête, les gens vont s'attacher à quelqu'un qui fait beaucoup plus de bruit, quelqu'un qui promet le succès, qui promet la popularité. Et ils oublient celui qui les a sortis des difficultés, des problèmes. C'est la nature humaine. La nature humaine a tendance à suivre ce qui est brillant, ce qui est éclatant. C'est ce qui explique la négligence par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu paraît simple dans un livre comme ça. Et dans cette forme-là de livre, dans cette forme d'écriture, les gens négligent. Mais que la même parole ressuscite un mort, que la même parole guérisse un cancéreux, ben, vous allez voir les gens s'agiter, les gens venir en grand nombre. Pourtant, la même parole qui a fait les cieux et la terre, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, c'est elle-même qui est sous forme d'écriture. Et quand elle est sous forme d'écriture, les gens la méprisent, négligent la sagesse qu'il y a dedans. Or, c'est cette même sagesse qui produit les miracles. Mais dans sa forme de production de miracles, beaucoup vont venir chercher à s'attacher à elle. Voilà. C'est pourquoi ceux qui croient à la parole, ceux qui savent que la sagesse est importante, parce qu'il le dit au verset 16, la sagesse vaut mieux que la force. Finalement, elle est très importante. Sauf que, elle n'emportera pas toujours le succès qui est lié à sa puissance, à sa qualité. Voilà. Et nous devrions nous habituer à cela. C'est très important. Parce que beaucoup ont versé dans de fausses doctrines, dans des façons de faire matuvistes, voulant impressionner, parce qu'ils ont eu l'impression qu'en faisant les choses dans le sérieux, dans la sagesse, dans la vérité, dans la confiance en Dieu, qui n'ont pas eu de grands succès. Mais le but, ce n'est pas d'avoir du succès. Le but, c'est de faire comme Dieu veut. Le but, c'est d'aider les autres, même s'ils ne reconnaissent pas. C'est ça l'amour. L'amour, c'est aider, c'est faire le bien. C'est ça la sagesse. Nous ne devons pas, à cause de l'ingratitude des humains, sortir de là. Parce que si nous sortons de la sagesse, nous nous exposons à la mort spirituelle. Nous nous exposons à notre propre destruction. C'est ça même le but du diable, décourager les gens sages par l'ingratitude des autres. C'est ça son objectif. Comme ça, quand tu quittes la sagesse, qui va calmer le conflit? Qui va aider? Qui va rester silencieux au bon moment? qui va sortir la bonne parole au bon moment. Il n'y a plus personne et c'est la destruction de l'humanité. Voilà. Que ceux qui sont sages le deviennent davantage malgré l'ingratitude. Il faut continuer dans le en étant pacifique, en étant constructeur, en étant dans les bons conseils, même si en s'impliquant dans la vie des autres quand ils ont besoin, même si en retour, ben, y a pas grand chose. En retour, il y a le manque de reconnaissance, mais la sagesse en elle-même, elle est bonne. Voilà. Donc, soyons dans la sagesse parce qu'elle est bonne, elle est plus forte que n'importe quelle force. Voilà. N'exerçons pas la sagesse pour en retirer quoi que ce soit. Voilà ce que nous pouvons retenir de cela. Nous passons au chapitre 10. Ah, pardon, excusez-moi, 17-18.
Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens.
Ah, verset 17, les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris qui dominent parmi les insensés. Mais c'est bien dit, ces cris-là dominent parmi les insensés. Au milieu des insensés, c'est celui qui crie qui va dominer. Mais les gens intelligents vont prêter l'oreille au discours de l'homme sage, parce que c'est ça qui va construire leur vie. Dans le tumulte de la vie, c'est les insensés qui l'emportent parce qu'ils passent à la télé, ils font des films, ils font des entrées spectaculaires dans les cinémas, ils font des sketchs qui font du bruit. C'est comme ça là, le monde. Et beaucoup de gens le suivent. C'est écrit « Large est le chemin qui mène à la perdition ». Mais l'homme intelligent, l'homme sage, va prêter l'oreille aux gens sages, même s'ils ne sont pas populaires, parce que c'est eux qui donnent des paroles de construction. C'est cela, bien-aimés. Et le verset 18 est fort. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc le chapitre 10, même le premier verset va le confirmer. C'est que, avec la sagesse, tu vas bâtir des choses, et puis un comportement de quelqu'un de mauvais, un seul acte de méchanceté peut tout détruire. Regardons la destruction des immeubles. Ça ne dure pas. Hein. En un mois, on peut détruire un immeuble de 20 étages, surtout avec les techniques de minage, de petits explosifs qu'on met et qui font tomber une tour comme un château de cartes. Ça peut aller très vite, mais alors que la construction, ça va prendre du temps. La construction, c'est la sagesse. C'est un appel à faire attention aux actes inconsidérés. Parce que quelque chose qui a été bâti en 15 ans, un acte, des actes inconsidérés d'un mois peuvent écrouler cela. C'est ce qui est dit. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. La destruction est facile. C'est facile la destruction, mais la construction prend du temps. Moi, j'ai comme un de mes principes, c'est que je ne laisse pas ce qui a été construit être détruit facilement. Ça fait partie de mes principes. Ça fait partie de mes alarmes. Quand je vois que quelque chose, une amitié, une relation qui a été construite dans le temps, qu'il y a quelque chose de simple qui veut détruire ça, je deviens vigilant. Je deviens vigilant parce que la construction est très difficile. Les gens qui construisent connaissent la difficulté de la construction. Bien aimé, quand certains voient que aujourd'hui, vous savez, avec tout ce que le monde connaît de technologie et d'argent, est-ce que vous entendez que les gens vont encore faire des voyages à la Lune? Non, parce que ça coûte, bien aimé, ça coûte. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Donc, quand nous entendons qu'il y a eu un voyage comme ça à l'une, sachons qu'il y a eu une grande concentration d'efforts humains. Et dans beaucoup de choses, faire grandir un enfant, l'éduquer, il y a eu du travail. Et vous allez voir quelqu'un venir détruire ça en un mois par des bêtises. Donc, soyons attentifs, préservons ce qui a été construit. Ayons comme réflexe de protéger ce qui a été construit avec beaucoup d'efforts. Ne nous laissons pas voir par des critiques ou des observations faciles. Quelqu'un, il n'a jamais rien construit. Il va venir avec des observations faciles et détruire ce que les gens ont mis beaucoup de temps à construire. Moi, je suis très vigilant sur les gens qui ne construisent rien, mais qui ont des grands conseils sur pour les gens qui construisent. Avant, bien aimé, quand nous voulons écouter les gens, nous devons aussi observer qu'est-ce qu'ils ont construit dans leur vie. Il y a des gens qui ne font rien, mais des grands conseillers. Et ils analysent tout. Mais eux-mêmes ne bâtissent rien. Et tu vas les écouter, tu vas détruire tout ce que toi tu as bâti en 15 ans, en 10 ans, en les écoutant. Il faut écouter les gens aussi qui souffrent dans la construction. C'est très important. Et quand nous étions païens, il y a des gens qui en parlaient même. Il disait, mais puisque dans mon pays d'origine, je crois, les handicapés avaient comme, si je me souviens bien, le droit ils entraient au stade de foot sans payer. Mais c'était eux, comme on disait à l'époque, les grands journalistes qui critiquaient les footballeurs. Mais pourtant, eux, ils étaient handicapés. Mais c'est pour dire que tu ne peux pas comprendre la souffrance de l'autre si toi tu ne fais pas la chose. Beaucoup de journalistes parlent, mais il a raté le but, mais va jouer au ballon, tu vas comprendre. Mais un autre joueur, pour dire du mal, un joueur pour dire du mal d'un autre joueur, il réfléchit. Hein, parce qu'il connaît la souffrance. Un chanteur pour dire du mal d'un autre chanteur, il réfléchit parce qu'il sait le nombre de répétitions qu'il faut, le travail qu'il faut pour sortir un album. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait un album, rien qu'un album toute leur vie. Parce que c'est du boulot. C'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin, tu fais. C'est du boulot. Il faut respecter la construction. C'est très important. Ne laissons jamais quelque chose se détruire facilement. Parce que la construction est difficile, la destruction elle est facile. Nous passons au chapitre 10.
Question Internet. Certains pasteurs de prospérité utilisent le verset 16 pour appeler les chrétiens à être riches.
Ah non, mais on n'est pas encore... Là c'est Ecclésiaste 10, 16 ou 9, 16.
9, 16, oui.
9, 16.
Il parle de ce verset-là, oui.
Ah d'accord, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ah bon? Qu'est-ce que ça a à voir avec...
C'est sa question. Donc, je comprends. Certains pasteurs de prospérité, il dit, partent du verset 16 pour appeler les chrétiens à être riches et nous voyons la foule.
Non, mais ça, c'est des aberrations. Quoi. À un moment donné, ces chrétiens-là aussi doivent lire. On est en train de dénoncer le comportement des êtres humains qui méprisent les conseils qui viennent d'un homme simple et ces gens-là veulent utiliser ça pour dire aux gens, soyez riches, c'est comme ça qu'on va vous écouter. Ah non, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à être écoutés par tout le monde, dans le sens d'être suivis par tout le monde. Seuls ceux qui sont de la vérité vont nous écouter. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Jésus a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité, les gens qui sont de la vérité m'écoutent. Nous disons la vérité, le sage dit la sagesse, mais seuls ceux qui en veulent vont tirer attention. La majorité n'en voudra pas. C'est écrit, l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Vouloir, bien aimé, c'est logique. Aujourd'hui, si je suis milliardaire, je donne un conseil, chacun va se dire, ah ben, comme il est milliardaire, son conseil est valable. Voilà, mais c'est faux. Les choses doivent être analysées par elles-mêmes, non pas parce que quelqu'un est influent ou milliardaire ou professeur émérite. Non, la chose qui est dite doit être analysée par elle-même. Voilà, ça c'est un piège. Et vous allez voir que pendant que Jésus faisait les miracles, les gens sont venus en grande quantité et dès qu'il a commencé à dire la vérité, repentez-vous, ainsi de suite, et jusqu'à aller à la mort à la croix, les gens l'ont abandonné parce qu'ils veulent des choses qui réussissent. Mais ça, ce sont des pasteurs véreux, bien sûr. Hein, c'est cela.
Il y a une suite.
Oui.
Donc, il y a une autre question. Donc, il dit, mais peut-il avoir des véritables serviteurs qui attireraient des foules?
Le but, ce n'est pas d'attirer les foules. Le but, c'est d'être entendu. Voilà. Oui. Il veut être entendu, mais ces foules-là peuvent venir un moment et elles fuiront parce que un vrai serviteur, ce qu'il dira, ira à un moment donné à l'encontre de la chair. Du coup, les foules qui sont venues au début à cause d'une certaine autorité, puissance qu'ils ont discernée, vont fuir après, par après. Donc c'est un vrai serviteur peut connaître des temps de foule, mais ça ne va pas durer. Il va y avoir toujours un renouvellement parce que la première série qui vient, à un moment donné, quand la vérité commence à pincer, elle va fuir et il va y avoir encore de nouvelles personnes. Je répète le conseil qui a été donné là au chapitre 9. Le sage, l'homme de vérité, doit s'habituer à l'impopularité s'il ne veut pas tomber dans la dépression. Voilà. Oui.
Ma question, c'est concernant le verset 17 du chapitre 9, concernant le fait que quand on a mis du temps à construire quelque chose, il est indispensable de réfléchir plusieurs fois avant de pouvoir prendre des décisions pour ne pas détruire ce qui a été construit. Vous avez pris l'exemple des chanteurs, plusieurs exemples. Le problème que moi j'ai constaté, c'est qu'au niveau d'évangélisation, il y a des gens qui ont une doctrine qui est soit fausse, mais ils ont pris du temps à construire leur vie sur la base de cette fausse doctrine. Et aujourd'hui, si moi je vais prêcher à une personne en disant que voilà, Jésus t'aime, la personne ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu, elle n'a aucune idée de ce que j'ai construit dans ma vie vis-à-vis de ce que je suis en train de lui prêcher, je me rends compte que voilà, ça crée un déséquilibre pour la personne pour écouter ce que moi je vais lui dire, puisque lui, il a mis du temps à construire sur la base de sa fausse doctrine. Par exemple, ceux qui sont dans le catholicisme, ils ont vécu sur la base de tout ce qu'on leur a enseigné depuis des années. J'ai vécu la même chose. Oui, comment ça se fait alors?
Non. L'évangélisation n'est pas une question de raisonnement. Nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous disons qui compte, c'est ce que le Saint-Esprit va faire à travers ce que nous disons. Donc, peu importe le fait que quelqu'un, ça fait 30 ans, 20 ans qu'il est dans ce qu'il est, la vérité finit par percer ça et changer les personnes. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que quelqu'un, qu'il réfléchisse avant d'accepter Jésus, qu'il ne fasse pas les choses parce que il y a de la musique, il y a un succès. Donc, avant que la personne donne sa vie, moi, je n'ai pas peur que quelqu'un fouille et médite sur Jésus. Au contraire, c'est bien qu'il sache et que au moment où il se convertit, que ce soit une vraie conversion. Nous n'avons pas à avoir peur de longues constructions des autres. Nous devons faire confiance à la puissance de Jésus et qui touche et que ces gens-là même médite bien avant de s'engager. Même Jésus conseille cela. Chapitre 10, premier verset.
Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire.
Voilà, donc les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc, c'est ce que nous venions de développer au verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un parfumeur a fait beaucoup de travail pour obtenir un liquide qui a une bonne odeur. et puis il va faire un petit oubli, des mouches mortes, des mouches vont tomber dedans, mourir et gâcher l'odeur par leur putréfaction. C'est ça, un travail de 6 mois, de 4 mois pour produire un parfum de valeur peut être gâché par quelques mouches qui vont y tomber et qui vont fermenter, donc produire une mauvaise odeur. C'est ça la réalité, bien-aimés. Soyons vigilants par rapport à tout ce que nous construisons dans le travail de Dieu surtout. Nous allons prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans à construire quelque chose et puis quelqu'un va venir en 2 mois de construction, de destruction par la zizanie, faire tout tomber. Mais c'est qui perd? C'est nous tous qui perdons. Nous avons vu 20 ans, 30 ans à bâtir quelque chose. Il faut respecter ce qu'on bâtit, bien-aimé, jusqu'au bout. Il faut respecter les enfants. C'est difficile d'élever un enfant. Et tu as élevé un enfant maintenant 11 ans, tu négliges son éducation, tu le laisses regarder ce qu'il veut, tu le laisses faire ce qu'il veut. Donc, c'est un trésor, un être humain. Quand tu as souffert pour le porter dans ton ventre, tu as souffert dans ces premières années pour t'en occuper, et que cet enfant atteint 12 ans, 13 ans, tu le délaisses à lui-même. C'est mauvais, c'est méchant. Parce que il y a eu un gros investissement, 10 ans, 12 ans. Il faut veiller à cela jusqu'à ce que cet enfant ait un âge de liberté, d'autonomie réelle. Tant qu'il n'a pas atteint cet âge d'autonomie, même quand il atteint cet âge d'ailleurs, donc du moment qu'on a investi pour un être humain, nous devons rester constants dans l'amour. Je le dis même pour les responsables. Tu as prié, tu as prêché, tu as baptisé, et la personne, à un moment donné, devient orgueilleuse. Mais tu ne vas pas gâcher tout ça en la maudissant. Tu dois prier toujours pour la personne. Parce que tu as investi dans sa vie. Aujourd'hui, les gens maudissent facilement, mais c'est toi qui as bâti la personne. Continue à prier. Continue à travailler, puisque tu ne vas pas gâcher ton investissement. C'est ce que Dieu a dit à Jonas. Mais toi, tu voulais que je détruise une ville de comme Ninive, peuplée de gens qui ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche. Mais tous ces humains-là, mais c'est un investissement. J'ai construit un arbre en quelques secondes, ça t'a protégé, et je tue l'arbre, tu te fâches pour un arbre. Et moi, je vais laisser tous ces hommes-là mourir. Non, c'est un investissement. Dieu a investi en nous créant, et il tient à nous, il veut nous sauver. C'est la même chose pour tout. Tu as investi dans une amitié, tu as investi dans une relation, même si l'autre entre dans la méchanceté, dans la trahison, toi, garde une attitude de construction, parce que tu ne vas pas gâcher ce que tu as conçu pendant des années. Maintenant, si l'autre refuse vraiment la construction, ça sera son problème, mais toi, tu dois être toujours dans une attitude de ne pas perdre ce que tu as bâti dans la souffrance. C'est très important, parce que quand vous êtes vigilant par rapport à ça, vous allez éviter beaucoup de choses. Vous allez éviter beaucoup de destructions quand vous vous souvenez que vous avez souffert pour bâtir quelque chose. Vous allez éviter beaucoup de choses. Et c'est ce qui est dit là, les mouches mortes, voilà, des mouches vont venir gâcher le travail d'un humain de plusieurs mois. Voilà, c'est ça la réalité. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Voilà, vous allez avoir un ami qui va amener sa folie et détruire carrément tout ce que vous avez bâti avec beaucoup de sagesse en 10 ans, 12 ans, et qui a manifesté la gloire. Quelqu'un va venir donner un conseil. On avait parlé d'une église où le pasteur était sérieux, il travaillait même à l'éducation nationale, c'était un professeur, et puis à un moment donné, ils ont reçu un homme qui venait d'un pays d'Afrique, et qui est venu à l'église, quoi, en tant que chrétien, et petit à petit... cet homme a commencé à dire, mais il faut savoir respecter les hommes de Dieu, il faut savoir respecter le pasteur, tout ça. Allez, de fil en aiguille, il a commencé à porter le sac du pasteur. Et lui aussi a laissé faire. Et ensuite, il a commencé à... Il est devenu son garde du corps. Lui aussi, il a laissé faire. Donc, quand il allait aux toilettes, lui, il était devant la porte. Et le garde du corps, il est entré dans la réunion des responsables, puisque le garde du corps est partout. Donc, les responsables se réunissent. Lui, en tant que garde du corps du pasteur, il entre aussi dans cette réunion des responsables. Garde du corps, mais attends qu'on donne un coup pour le défendre. Non. Il commence à donner aussi ses avis pendant la réunion avec les responsables. Ah oui, mais moi je pense que... Ah oui, mais... Et comme le type, il est élevé par cet homme-là, il soutient les idées et finalement... Il fait passer des logiques du genre le pasteur doit être payé par l'Église. Pourtant, le monsieur, je ne suis pas contre cela, mais je dis, mais quelqu'un, il a son travail, il est professeur, il n'avait pas besoin de ça. Il vient avec ce nom, mais la dîme, c'est au pasteur, les offrandes, c'est à l'Église. Moi, je viens d'un pays où, il venait du Nigeria, les églises sont grandes, elles prospèrent parce qu'on sait respecter le pasteur. Il vient avec ses théories. Mais comme quelque part aussi, les gens aiment aussi des discours grandiloquents qui prophétisent la grandeur, qui prophétisent le succès, comme ça allait aussi, ça va dans le sens humain. Il dit, mais si vous voulez que l'Église grandisse, si vous voulez qu'il y ait ça, moi je viens de, j'ai vécu ça, j'ai vu comment Dieu bénissait l'Église quand on respectait l'homme de Dieu. Allez, la dîme va maintenant chez le pasteur et les offrandes à l'Église. Nous connaissons le système humain. L'humain aime là où il y a son intérêt. S'il sait qu'en donnant la dîme au pasteur, je serai béni, il ne va rien donner à Dieu, il va donner au pasteur. Du coup, les offrandes, zéro. C'est le pasteur qui prend tout l'argent. Il n'y a plus d'argent pour payer la salle. Il se retrouve à sous-louer avec des païens. Et ainsi de suite. Et puis, les choses meurent. Tout ça à cause d'un peu de folie. Un fou est venu dans l'église. Il a tout détruit. Des mouches mortes. Il a tout détruit. Mais ça se fait avec technicité. C'est pourquoi il faut être vigilant, mais on a mis du temps à construire le fait que c'est Jésus qui est notre secours. C'est lui la vérité. C'est la Bible que nous devons suivre. Quand quelqu'un va venir avec sa folie, ben comprenez qu'il y a aussi des livres des hommes de Dieu qui ont... Ah, mais d'accord, nous respectons tes livres des hommes de Dieu, mais nous, c'est la Bible d'abord. Voilà. Donc soyons vigilants quand nous avons mis du temps à construire quelque chose. Même ton propre enfant peut venir détruire ça facilement. Il faut être vigilant avec tout le monde. Quand tu as souffert pour quelque chose, ne laisse pas ça détruire facilement. Je suis bien en train de parler dans le contexte des choses bonnes et des choses de Dieu. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Une mouche morte peut passer par là et tout renverser. Voilà. Nous continuons.
Les deux. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés.
Voilà, je reviens sur le verset 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les gens, il y a une catégorie de gens qui critiquent tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire 80% des humains sont toujours un problème pour eux. Ce n'est pas normal. Un sage, un homme juste ne peut pas critiquer tout le monde. Déjà, il a l'idée d'aimer tout le monde. Du coup, il ne peut pas critiquer tout le monde. Même si tu es le plus intelligent comme Einstein, tu ne peux pas trouver de défaut chez tout le monde. Quand vous avez l'impression que quelqu'un ne passe son temps qu'à trouver les défauts sur tout le monde, comprenez que vous avez affaire à un insensé, quelqu'un qui ne suit pas Dieu. Normalement, quand nous suivons Dieu, Dieu va nous montrer aussi de bonnes personnes. Et même quand nous sommes entourés sur cette terre de mauvaises personnes, Dieu va nous les faire voir autrement. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver. Il ne peut pas passer son temps à nous montrer que tout le monde est mauvais. Il sait qu'il va nous détruire. Il ne va pas atteindre ses propres objectifs à lui. Même quand les gens sont mauvais, Dieu va nous les montrer sous un autre jour. J'avais fait une prédication. Ah, peut-être c'était, je ne sais pas où j'ai fait, peut-être c'était en Guyane, où j'expliquais que un jour sur Facebook ou bien sur YouTube, j'ai vu une petite vidéo que je n'ai pas finie puisque je n'aime pas trop la violence, d'un voleur qui s'était fait attraper et les gens étaient en train de le frapper. Mais curieusement, c'est comme si le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je l'ai vu avec une beauté. Je regardais cet homme qui était un voleur, mais moi je le voyais avec une telle beauté, au point même d'en vouloir aux gens qui étaient en train de le frapper. Dieu m'a ouvert les yeux sur son cœur. Même si les gens frappaient cet homme, Dieu aimait cet homme. Un juste ne peut pas voir le mal partout. Je ne dis pas qu'il ne peut pas voir le mal. Il peut voir le mal, mais le dénoncer pas à tout moment, voir tout individu, voir tout homme mauvais. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un juste doit aimer, doit vouloir construire. Donc, quand on commence à voir tout le monde, surtout quand les gens ne sont pas du même avis que toi, ils deviennent mauvais. Ah non, c'est pas normal. Nous sommes dans un monde libre. Il faut accepter qu'il y ait des avis contraires. Même le frère Paul en parle dans Philippiens 3. Il dit, même si on a des avis différents, marchons quand même ensemble. Et Dieu nous éclairera. Donc, ayons de l'humilité et de l'amour pour voir les gens dans leur bon côté. C'est important. Sinon, on est dans le cadre de fous, insensés, hyper orgueilleux, qui se croient seuls, bons, beaux, forts, intelligents. C'est pas logique. Nous continuons.
Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un...
Voilà, donc là, les inversions de positions qui sont citées dans le verset 5, un mal sous le soleil, la folie occupe des postes très élevés, on voit des gens, ce sont les aventuriers qui deviennent ministres, qui deviennent, voilà, il va, et les gens qui parlent fort, voilà, qui parlent, et qui disent des mensonges. Et c'est eux qui remportent le succès, qui prennent des rôles, c'est ça le monde, et des gens vraiment qui, Et les circonstances peuvent aussi faire que certains riches se retrouvent dans l'abaissement. On voit Patrick Balkany, Isabelle Balkany, voilà. C'est des riches aujourd'hui qui se retrouvent dans l'abaissement. Les circonstances aussi le font. Il y a ces inversions qui existent sur la terre. Il faut pas se targuer d'être je ne sais quoi. Et puis, les inversions vont te prouver le contraire. Et nous avons, dans certaines familles, ce n'est pas toujours l'enfant le plus intelligent qui va être le plus riche ou le plus connu. Non, il y a des inversions comme ça. Le monde est compliqué et complexe. Soyons humbles. Et des esclaves sur des chevaux, ça arrive. Ce qu'on appelle des arrivistes aussi. Mais il y a aussi des gens qui sont élevés par Dieu lui-même. Donc tout ça fait que nous devons être dans l'humilité. Le monde est complexe. Celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille, voilà, sera mordu par un serpent. Ça va dans le même sens que le verset 9 et la suite. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Voilà. Ça nous montre que il y a des risques dans, de récolter ce que nous semons. C'est écrit donc dans Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il sème. Si tu creuses une fosse pour les autres, tu risques d'y tomber toi-même. Tu remues des pierres et ça va te blesser. Dans ce que nous faisons, il peut y avoir des conséquences négatives. Surtout quand ce sont des mauvaises choses, il faut en être conscient. Voilà, nous continuons verset 11. Oui.
L'internaute demande si tu peux expliquer le verset 4 du chapitre 10.
Si l'esprit, de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un, un roi, un président, un patron s'énerve contre toi, ne te précipite pas à te mettre en opposition contre lui. Tu risques de faire des erreurs. Parfois, il faut un peu de patience pour que la vérité éclate, même que le patron change d'avis sur toi. Mais si rapidement tu quittes ta place, là où tu étais d'obéissance, de soumission, pour vouloir te faire justice, voilà, tu risques de commettre des grands péchés, des grandes erreurs. Parfois, la patience... Souvent plutôt la patience est bénéfique dans ces situations-là où tu subis comme une injustice d'un patron, de celui qui domine. Dieu va te justifier et le temps aussi. Vaut mieux attendre plutôt que de monter sur ses chevaux et faire des bêtises.
Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui.
Voilà, là il y a un lien entre le serpent et les paroles de l'insensé. Souvent dans la Bible... Les paroles sont liées au serpent, les mauvaises paroles. Donc, c'est lié au serpent. En quelque sorte, si le serpent mord faute d'enchantement, c'est-à-dire il y a des gens qui jouent avec des serpents dans le Moyen-Orient, qui font des musiques avec les serpents. Donc, c'est comme si ils arrivent à calmer le serpent qui cesse d'être dangereux. Le temps de leur jeu. Et il s'est dit, mais s'il mord, ben ça veut dire que l'enchanteur a perdu le contrôle. Donc la personne qui est censée jouer avec le serpent, eh ben, a perdu le contrôle du serpent. Donc le serpent, là, c'est comparé à la langue. Donc si tu dis n'importe quoi, c'est que tu as perdu le contrôle. La langue montre l'état des gens, quand ils ont perdu le contrôle, eh ben ils disent n'importe quoi. C'est cela. Quand le serpent mord, c'est que l'enchanteur a perdu le pouvoir sur lui. Et si la langue sort des folies, eh ben c'est que l'homme n'est plus dans son calme, dans sa raison. Il a perdu le contrôle. Il dit, l'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera. Il multiplie les paroles alors qu'il ne maîtrise pas l'avenir. Le commencement des paroles de sa bouche est folie. Et donc, il a perdu le contrôle, l'insensé. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, insensé. Donc, quelqu'un qui a perdu le nord. Voilà. Nous continuons, verset 15.
Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson.
Voilà. Donc c'est un appel à faire attention aux responsables qui ne pensent qu'à fêter, voilà, qui ne pensent qu'à s'amuser. Donc les princes qui font la fête dès le matin, qu'ils font la fête, mais quand est-ce qu'ils réfléchiront pour construire le pays? Donc c'est normalement, nous devrions faire la fête après avoir fait une construction. Voilà. Mais sans construction, tu fais la fête dans le vide, ben c'est malheur à ces pays-là. Donc c'est ils ont des rois, des enfants, des gens qui ne pensent qu'à s'amuser. C'est très très dangereux et prions pour avoir des rois qui ne soient pas des enfants. Et l'âge aussi, ça joue. Oui.
Ce que tu as dit par rapport au père de contrôle et au serpent et tout. J'ai vu une vidéo d'un petit garçon, je pense qu'il n'a même pas 10 ans, je crois, bon, c'est devenu une fille, et depuis l'âge de 3 ans, il avait cette impression de d'être trompé de corps. Il avait des envies suicidaires. Et ses parents et cet enfant, depuis qu'il a 3 ans, ils ont décidé de ne plus l'appeler dans le prénom garçon qu'on lui avait donné. Donc c'est totalement banni de la famille. Aujourd'hui, on l'appelle Lily. Et il se dit, enfin ses parents et lui sont d'accord avec ça en disant que bah nous on préfère Lily parce que Lily est beaucoup mieux comme ça que donc maintenant l'ancien nom on l'appelle maintenant. Donc est-ce que ça veut dire que les parents ont perdu contrôle de l'enfant ou est-ce que c'est un esprit qui est rentré dans la famille, c'est comment?
Non, c'est tout. Donc et les esprits et la perte de contrôle de tout, c'est pas seulement de l'enfant, de tout. Voilà.
Et une deuxième question qui n'a peut-être rien à voir avec le truc. Quand on embrasse le front d'un mort, c'est quoi? C'est un culte mort, c'est...
Comment embrasser Non, mais même la Bible dans Lévitique nous interdit toute forme de contact avec les morts. Là, tu parles même d'embrasser. Moi, je dis même les gens qui parlent. Jean-Paul, en s'adressant aux morts, c'est démoniaque. Le mort est mort. Il n'a plus de lien avec nous.
Question Internet. Est-ce que le verset 8 du chapitre 10 fait référence à Genèse 3, 15?
Ah non, pas du tout. Genèse 3, 15, c'est la prophétie sur Jésus. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est sur la prophétie sur Jésus qui devait être crucifié à la croix, donc mordu par le serpent, mais qui va écraser la tête du serpent.
Une autre question, par rapport au verset 16, certains hommes politiques ou journalistes utilisent Ecclésiaste 10, 16 en pointant certains présidents, donc à cause de leur âge. Peut-on dire qu'ils ont raison de comparer ce genre de président à un enfant? Si oui, à quel genre de malheur le peuple de ce pays est-il exposé?
On voit déjà avec l'électricité là aujourd'hui. Donc il y a plein de malheurs sur la France à cause justement de ce verset-là. Donc d'avoir un roi jeune qui est... Parce que vous savez, souvent, quand on est jeune, c'est pas nous qui décidons. Quand nous sommes jeunes, ce n'est pas nous qui décidons. C'est d'autres qui nous influencent. Et c'est pas bon. Maintenant, il peut y avoir des enfants exceptionnels, voilà, qui se comportent comme des adultes. Mais nous parlons de la généralité. Et donc, verset 18.
Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison...
Voilà, donc la maison s'écroule, donc à cause de la paresse.
Se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout.
Voilà le verset fétiche des pasteurs de prospérité. L'argent répond à tout. Ils disent, mais c'est dans la Bible! Vous dites que nous sommes dans le faux alors que nous suivons la Bible. Bien aimé, la Bible doit être lue dans chaque verset dans son contexte. Nous avons des versets clairs dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 6,9 qui dit que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. Et l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Verset 10. Donc, c'est clair que l'argent est dangereux. C'est une réalité. Nous disons pas que l'argent c'est un péché, mais c'est dangereux. Et il ne faut pas l'aimer. 1 Jean 2, 15 à 16 nous dit bien aimé, n'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Et quand Salomon dit que l'argent répond à tout, il parle d'un constat. Donc c'est un livre de réflexion. C'est pas tout ce qui est dit ici n'est pas à faire. C'est un constat. Nous avons même parlé du comportement des humains qui sont ingrats par rapport à la sagesse du pauvre. Mais c'est ce qui est constaté pour que nous soyons au courant et nous sachions comment nous comporter. C'est la même chose ici. C'est que quand quelqu'un a l'argent, du moment, il peut faire tout ce qu'il veut avec l'argent. Il peut acheter même des humains. C'est le constat qui est donné. L'argent répond à tout. Mais ce n'est pas à dire que nous devons donner à l'argent une importance extraordinaire dans nos vies. Pas du tout. Il faut vraiment nous élever au-dessus de l'argent. C'est une domination que nous devons nous dominer. Hein. Et on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. C'est des constats. C'est les constats de ce qui se passe dans le monde. Donc, tous ceux qui utilisent Ecclésiaste 19 pour escroquer les gens, demander l'argent, sont dans l'erreur totale. C'est pas le seul verset de la Bible et c'est un verset constat, c'est pas un verset conseil. Voilà. Nous continuons, verset 20.
Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles.
Voilà, c'est un conseil à ne pas résister à l'ordre de Dieu. Nous connaissons le passage qui dit « Toute autorité vient de Dieu ». Et souvent, les gens, quand ils murmurent, même dans la pensée contre l'autorité, c'est écrit. Il y a des créatures, notamment les anges, qui peuvent avoir la capacité de savoir ce que tu as dit par Dieu. Il peut avoir la capacité. Donc Dieu lit dans le cœur. C'est une façon de dire les murmures et les mauvaises pensées contre les autorités finiront toujours à être en général connues. Voilà. Vous savez, tout simplement parce que, un, Dieu, c'est lui qui établit les autorités, et de deux, donc ce qui fait que d'une certaine manière, il va les préserver aussi des pièges. Si Dieu a décidé que même un mauvais président soit président, mais c'est lui qui a décidé, il peut le protéger. Nous allons dire, ah, mais ce sont ses fétiches. Mais non, nous ne savons pas trop. Puisqu'il y a un jour aussi, on les arrête, ces gens-là, et les fétiches, pourquoi elles n'ont pas agi en ce moment-là? Dieu, s'il a décidé que c'est la personne qui est là, que c'est elle qui doit être là, même si elle n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne faut pas se mêler de ces affaires-là et commencer à vouloir faire Dieu, jouer à Dieu. C'est très dangereux. Il dit, mais l'oiseau ailé va se prendre ce que tu penses là, ce que tu fais comme complot. Ça va être éventé, puisque c'est Dieu qui décide. Nous avons vu ça avec David. Il pouvait tuer Saül. Il s'est dit, ah, cet homme, c'est le Dieu qui l'a mis roi. C'est un mauvais roi, c'est sûr. Il veut me tuer. Je suis dans la légitime défense en le tuant. Mais attention, ce n'est pas moi qui l'ai établi. Je ne veux pas entrer en opposition avec ce que Dieu a décidé. C'est ça la réalité qui est exposée dans le chapitre 20. Et deuxième raison qui fait que souvent, les choses que les gens disent contre les autorités finissent par être connues, mais parce que les autorités ont aussi des gens qui les aiment. Donc finalement, quand elles entendent, elles vont rapporter. C'est ça aussi la réalité humaine que l'on retrouve. C'est pourquoi il faut chercher souvent à régler directement plutôt qu'à faire des conciliabules, des apartés dans le but de nuire, enfin dans la contestation. Et ça finit toujours par être connu et ça ne construit pas. Voilà. C'est ce qui est dit au chapitre 20. Voilà. J'avais oublié de parler, je parle rapidement du verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue. parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Parce que, bon, vous savez, c'est à la ville aussi que les gens allaient chercher du travail, quoi. Si vous allez dans certains pays encore aujourd'hui, notamment au Maroc, ben, il y a, le matin, il y a des plombiers, des maçons qui se mettent dans un carrefour, qui attendent qu'on puisse les employer. Hein, voilà, c'est, ben, l'insensé, lui, il est fatigué. Il veut pas aller à la ville pour chercher le travail. Voilà. Que le Seigneur nous parle par rapport à tout ce que nous avons lu. Nous avons intitulé ça « Réflexion profonde » parce qu'il y avait plusieurs idées. Voilà, l'argent répond à tout, nous avons parlé de ça. Le respect dues aux autorités, nous avons touché le fait que la sagesse n'est pas forcément populaire, ça ne donne pas forcément du succès ni de la richesse, mais c'est excellent. Voilà, c'est plus fort que les guerres. Voilà, tout ça a été dit, que chacun utilise ce qu'il a reçu aujourd'hui dans sa vie concrète et il verra le fruit de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à utiliser ce que nous avons entendu, que ça soit pas une connaissance qui fait plaisir au cerveau, mais qui entre dans le cœur pour produire du fruit réel. Aide-nous à être humbles, c'est ça une des conclusions que nous avons retenues, car nous connaissons pas l'avenir. Les temps et les circonstances, il y a des esclaves qui montent sur les chevaux et des riches qui sont abaissés. Nous ne connaissons pas les choses, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi pour tout et obéir à ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, en termes d'annonce, le vendredi à 16h, je crois, nous avons l'émission « Questions et réflexions ». Vendredi 16h, question et réflexion, avec comme question, toutes les religions ne sont-elles pas pareilles? Donc c'est une des attaques que les chrétiens reçoivent quand ils évangélisent, quand ils parlent de Jésus. Je dis, mais que chacun demeure dans sa religion, c'est à peu près pareil. Voilà, nous allons répondre à cette question-là, est-ce que toutes les religions sont pareilles? Mais nous allons beaucoup plus insister sur la question suivante, est-ce que le christianisme c'est pareil que les autres religions? Voilà. Parce que nous sommes chrétiens, nous allons parler de ce que nous savons de la foi chrétienne. Beaucoup de gens voient les choses de l'extérieur et se disent, mais c'est à peu près pareil, on prie, on chante. On donne des offrandes. Dans toutes les religions, c'est comme ça que ça se passe. Mais toutes les religions parlent du fait d'être honnête, d'être correct. Voilà. C'est ça, c'est l'idée de la personne qui voit les choses de loin. Nous allons les rapprocher, qu'il voit les choses de près et qu'il s'en fasse une vraie idée des choses. Voilà. Que Dieu nous bénisse à vendredi pour certains et à dimanche pour d'autres.